Dans la continuation de notre cycle de méditation sur la vie, nous allons voir ce matin, je vous donne le titre de, que j'ai indiqué moi-même sur ma fiche, la vie manifestée, la vie véritable, la vie éternelle, manifestée. Nous lirons dans la première épître de Jean, 1 Jean, le chapitre 1 et les 4 premiers versets. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Alors, lisons avec beaucoup d'attention. Toujours, je rappelle cela, la concision des Écritures. Faire très attention, c'est très concis. Alors, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Voilà, c'est ce qui va fournir la base scripturaire de notre méditation ce matin. Posons-nous d'abord cette question, nous qui sommes engagés dans la vie chrétienne, oui, qui sommes entrés dans l'Alliance nouvelle, que le Seigneur regarde comme ses enfants. La même épître dit « Enfants de Dieu, nous le sommes ». Parce que Dieu le veut, parce que Dieu en a décidé ainsi. Bon, alors, quelles sont les orientations de notre marche chrétienne? Nous avançons dans le temps, n'est-ce pas? Les jours passent, les semaines, les mois, les années. Et alors, quelles sont les orientations? Je les rappelle. Nos orientations comprennent d'abord la prière, bien sûr. Prière est à la base de tout. La vigilance, veiller, le Seigneur nous l'a demandé. La pratique de la patience, ça demande beaucoup d'attention. La pratique de la patience, l'attente, il faut savoir attendre. Abraham, il a attendu cet enfant pendant un peu plus de 10 ans, alors qu'il était très âgé. L'attente. La recherche de l'amour, rechercher l'amour, nous est-il dit. La sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, voilà les orientations, les grandes orientations de notre marche chrétienne. Cependant, les préoccupations de l'existence, nous sommes dans ce monde, nous sommes sur cette terre, nous sommes au milieu des autres, nous sommes obligés de travailler, bien sûr, et nous avons contact avec tout le monde. Alors, nous sommes, nous aussi, dans des préoccupations, nous sommes obligés de partager les préoccupations qui sont celles de nos concitoyens, et ces préoccupations de l'existence, malheureusement, nous accapare trop. Elle nous accapare. Et le malin, savez qui c'est, le malin. Il s'ingénie, justement, à nous enfoncer toujours davantage dans les préoccupations matérielles, existentielles, si l'on veut, n'est-ce pas, pour nous distraire des moments de concentration intérieure, de piété. Mais alors, si ces préoccupations de l'existence nous en serrent tellement, la vie nouvelle, la nouveauté de vie, la vie nouvelle, la vivons-nous vraiment? Alors voilà la question qu'il faut se poser ce matin. Vivons-nous la vie nouvelle? Malgré tout cet emprisonnement presque dans les nécessités et les préoccupations de l'existence. Alors nous allons voir cela et d'abord nous rappeler ce que fut la mission de Jésus en venant sur la terre. Nous savons que Jésus a beaucoup insisté sur le fait qu'il était envoyé du Père. C'est le Père qui m'a envoyé. Je suis sorti du Père, et le Père m'a envoyé. Mais le Père l'a envoyé pour quoi faire? Pourquoi? Alors, lisons quelques textes. D'abord, dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 5 et verset 21. Chapitre 5 de Jean, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Bon, voilà déjà quelque chose. Dans la mission de Jésus s'inscrit essentiellement ceci, donner la vie. Jésus vient pour donner la vie. Je vous rappelle, je ne vais pas le dire tout le temps, qu'il s'agit de la vie impérissable, de la vie éternelle. Donc, dans la mission de Jésus, il y a d'abord cela, donner la vie. Ne quittons pas ce chapitre 5 et voyons le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici que le Seigneur précise et nous dit ceci, tout dépend de votre cœur, tout dépend de ce que vous allez faire, de votre foi, de ce sens spirituel qui est en vous, en chacun de vous, qu'allez-vous en faire? Et si vraiment vous laissez ce sens spirituel s'exercer, et s'exercer sur Dieu naturellement, Dieu le Père, et sur moi, eh bien, vous allez passer de la mort à la vie tout de suite. Voilà ce que nous dit le Seigneur. C'était dans sa mission, ça je n'insiste pas, dans sa mission. Le verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Retenons bien ceci, le Fils a la vie en lui-même parce que Dieu le Père lui a donné d'avoir la vie en lui-même. Vous pourriez me dire, mais attention de ne pas être de vilains raisonneurs. On peut poser des questions, mais il ne faut surtout pas opposer le raisonnement humain naturel à l'Écriture sainte. Si nous avions le temps, je vous montrerai que toute l'Écriture sainte, la parole de Dieu, est basée sur le paradoxe. Sur le paradoxe. Pour vivre, il faut mourir. Pour être fort, il faut être faible. Vous voyez, n'est-ce pas, le paradoxe? Bon. Alors, comment se fait-il que le Seigneur Jésus, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, il est dans le Dieu unique. Le Dieu unique est Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, alors, comment se fait-il qu'il n'ait pas d'office en lui la vie, et qu'il faut que le Seigneur nous dise que le Père a la vie en lui-même, et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Mais parce que le Fils s'est fait homme, parce qu'il est incarné, parce qu'il paraît dans une nature humaine, et qu'il a laissé, abandonné l'énorme privilège d'être Dieu. Il n'a pas cessé d'être Dieu, bien sûr, mais Philippiens 2 nous dit, n'est-ce pas, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être Dieu, c'est-à-dire de rester vraiment Dieu. Il est venu en homme, il a paru comme un simple homme, comme un serviteur. Et alors, c'est à cet homme, ce fils de l'homme, que le Père donne d'avoir la vie en lui-même. Voilà un homme qui paraît, qui naît de femme et qui a la vie en lui-même, la vie véritable. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Alors, donc, nous comprenons que Jésus vient sur la terre, il a la vie en lui-même. Au chapitre 10 de Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais. » Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Bien. Alors, je leur donne la vie éternelle. La mission, nous sommes dans la mission de Jésus. Voilà donc le Seigneur qui nous dit, j'ai été envoyé par mon Père pour donner la vie éternelle. Dans 2 Timothée, chapitre 1 et verset 8. Mais, j'ai mis verset 8, verset 7. « Car ce n'est pas un esprit, nous l'avons lu hier, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort. » La mission de Jésus est donc cela, de détruire la mort, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Dans le grec, littéralement, nous avons médité cela hier, n'est-ce pas? Mais dans le grec, littéralement, nous aurions, dans cette fin de phrase, « et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile », nous aurions ceci, « Jésus-Christ, qui a détruit la mort, est venu pour faire briller la lumière de la vie et de l'immortalité ». Nos traducteurs ont été un petit peu gênés pour traduire littéralement, ils ont mis en évidence, mais ce n'est pas mal, la traduction n'est pas mauvaise, mais je signale le sens absolument littéral, pour faire briller la lumière de la vie. Parce que à la vie s'attache toujours la lumière. Nous aurons l'occasion de revenir là sur la lumière. C'est un concept biblique d'une importance capitale. Ésaïe, le prophète Ésaïe, dans son chapitre 25, avait annoncé que le Messie allait venir pour anéantir la mort. Chapitre 25, verset 8 d'Ésaïe, anéantir la mort à toujours et anéantir aussi quelqu'un. Anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. Et puis, lorsque nous regardons dans, je crois que c'est Jean 12, pas si c'est bien là, Jean 12, verset 50. Jean 12, verset 50. Ah oui, nous avons ceci. « Et je sais que son commandement, le commandement du Père, mes amis, je sais que son commandement, c'est-à-dire sa volonté formelle, son intention absolument inébranlable. Bon, alors, je sais que son commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Ce commandement de Dieu, la volonté de Dieu, le but poursuivi par Dieu, c'est la vie éternelle. Et un autre passage nous dit que la vie est, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Bon, ils ne le seront pas parce que l'homme est laissé libre de choisir. Il le faut, nous avons déjà dit que la liberté était indispensable et Dieu la respecte. Libre de choisir. Mais le commandement de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, la vie éternelle, c'est le commandement de Dieu. Alors, nous revenons à notre première épître de Jean, le passage que nous avons lu. Et nous voyons ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Que veut-il nous dire, cet apôtre ? L'apôtre que Jésus aimait. Tiens, à propos, pourquoi est-il écrit que Jean était cet apôtre que Jésus aimait ? Est-ce à dire qu'il aimait, il aimait moins les autres ? C'est pas possible. Jésus n'a pas des favoris. Il aimait donc autant les autres apôtres que Jean. Mais cela veut dire que Jean avait une disposition de cœur, une disposition intérieure à recevoir, comprendre et pouvoir ensuite restituer par l'écrit, n'est-ce pas, en tant qu'écrivain sacré, pouvoir restituer les choses de l'amour. Et donc Jésus était heureux de cette disposition qu'avait Jean, et en effet son évangile est très différent des trois autres qu'on appelle les synoptiques, n'est-ce pas ? Les trois synoptiques, bon, il y a des choses qui se correspondent, mais assez peu, et l'évangile de Jean est vraiment à part, il nous révèle des choses de l'amour que les autres n'ont pas. Donc, Jean avait cette disposition à recevoir, à comprendre les paroles du Seigneur Jésus concernant l'amour, à comprendre même l'amour dans les attitudes de Jésus, c'est ce qu'il nous dit ici, et à en rendre témoignage par la parole. C'est pourquoi il est appelé l'apôtre que Jésus aimait, c'est-à-dire l'apôtre que Jésus savait capable de comprendre l'amour. Alors, dès le commencement, ce qui était dès le commencement, que veut-il dire, notre apôtre Jean ? Pour nous, le commencement qui compte, celui qui compte, qu'est-il ? C'est notre rencontre avec Jésus-Christ. Nous savons très bien que tout ce qui s'est passé avant, nous le jugeons maintenant, nous le voyons, nous pas. Beaucoup de chrétiens disent d'ailleurs, oh, si j'avais pu croire plus tôt, n'est-ce pas, comme j'aurais aimé pouvoir croire plus jeune. Non, il y a un temps qui intervient dans la vie de chacun, bon. Cela n'est pas la question, mais notre commencement, c'est le moment de notre rencontre avec Jésus-Christ. C'est le moment de son intervention dans notre existence. Parce qu'avant cette rencontre avec Jésus-Christ, avant cela, la vie nous manquait. La vie nous manquait. Par conséquent, le commencement, c'est bien le moment où nous sommes nés de nouveau. Nés de nouveau, n'est-ce pas ? C'est ça qui compte. Alors, pour nous, le commencement, c'est ça. Mais Jésus-Christ est aussi, d'une façon générale, le commencement pour l'humanité. L'humanité, vraiment, se voit s'ouvrir devant elle le chemin qui conduit à l'éternité, à la venue de Jésus-Christ. C'est l'incarnation de Jésus-Christ, en somme, qui marque vraiment le grand commencement de l'humanité. Et la nouvelle humanité, l'humanité sauvée, aura pour commencement, donc, la venue de Jésus, l'incarnation de Jésus. Donc, pour nous, le commencement, c'est la rencontre avec Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Notre vie ne commence pas le jour de notre naissance de chair, n'est-ce pas ? La naissance de chair, bon, il la fallait. Si nous n'étions pas nés de chair, nous n'aurions pas pris place sur la terre parmi l'humanité, et puis la grâce ne nous aurait pas trouvés. Nous n'aurions pas été là pour recevoir la grâce. Il fallait donc que nous naissions de père et de mère, n'est-ce pas ? Bon, d'accord. Mais notre vie, en réalité, ne commence pas à la naissance de chair. Elle a commencé quand nous sommes passés des ténèbres à la lumière, l'admirable lumière du Seigneur. Et maintenant, en effet, le Seigneur Jésus-Christ est la condition de notre vie. Le Seigneur Jésus est lui, le Seigneur Jésus en personne, est la condition de notre vie. Dans Philippiens 1, verset 21, Paul dit, « Ma vie, c'est le Christ. Ma vie, c'est le Christ. » Philippiens 1, 21. Et il faut que je sois, maintenant, que je suis né de nouveau, que Christ est la condition de ma vie, je dois être aussi un esclave de Dieu. Ah, wow, ça nous taquine, ça, et ça taquine pas mal de gens. Hein. Un esclave de Dieu, c'est-à-dire un esclave de Christ. Je n'invente rien. Notez que je ne suis pas du tout de ceux qu'on appelle des légalistes. Je suis même contre le légalisme. Je m'en expliquerai plus tard. Je suis pour la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Attention, qu'on ne se méprenne pas. Mais je ne dis pas qu'il ne faille plus obéir. Attention, ça c'est autre chose. Mais obéir par le moyen de la grâce de Dieu. Voilà. Alors, nous disons que nous devons être esclaves de Dieu. Alors, je vais lire dans Romains, chapitre 6. Je m'exprime comme le fait l'Écriture, enfin, je ne change rien. Chapitre 6 et verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voilà, maintenant, vous êtes des esclaves de Dieu parce que vous êtes affranchis du péché. Avant d'être affranchis du péché, vous ne pouviez pas être esclave de Dieu, vous étiez esclave du diable. Bon, alors, étant affranchis du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, pour aboutissement, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Esclave de Dieu, c'est-à-dire aussi esclave de Christ. Et Paul n'hésite pas à employer ce terme, parce que de son temps, il y avait encore des esclaves, bien sûr, et il n'hésite pas à employer ce terme qui montre vraiment une dépendance totale de Christ, et c'est ce qu'il veut dire. Dépendance, vous êtes esclave de Dieu, dépendant de Dieu, vous êtes dans la dépendance de Dieu, vous dépendez de Dieu. Dieu est votre maître, Christ est votre maître. Nous sommes liés à sa personne et à son œuvre, nous sommes enchaînés à son retour. Enchaînés à son retour. Liés à sa personne et à son œuvre, et enchaînés à son retour. Alors, arrière de nous, Satan. Vade retro Satanas, arrière de nous, Satan. Arrière les conceptions et les exemples du monde qui m'écarteraient de mon union avec Christ. Attention, aujourd'hui, le temps est dangereux. D'autant plus dangereux que nous sommes à la veille du retour de Jésus. Attention. Nous pouvons céder quelquefois parce que nous avons un peu peur du monde, nous avons un peu peur d'être regardés comme des fanatiques ou que sais-je. Mais ça peu importe. Nous avons l'opprobre de Christ, supportons l'opprobre de Christ. Supportons-la, cet opprobre. Hein? Arrière les conceptions et les exemples du monde, et qui nous écarteraient de notre union avec Christ. La vie a été manifestée, nous a dit Jean dans la lecture que nous avons faite, la lecture de base que nous avons faite, et la vie a été manifestée. Il a mis ça entre parenthèses. Il y a dans votre version probablement un tiret avant « et la vie a été manifestée » et un autre tiret après « qui nous a été manifestée ». Manifestée. La vie a été manifestée. Ah, ça nous intéresse beaucoup cela. Il y a deux manières de comprendre ce que dit Jean ici. D'abord, nous pouvons dire, bah oui, la vie a été manifestée en ce sens que l'incarnation, comme nous disions à l'instant, l'incarnation du Fils de Dieu a été dans l'humanité la manifestation de la vie éternelle, la vie véritable chez un humain, pour les humains. Ça a été la manifestation. Donc la vie véritable, la vie éternelle, a fait irruption avec le petit enfant qui est né de Marie. La vie éternelle a fait irruption. Donc, pourrons dire, elle a été manifestée. Elle a été manifestée là. Et en effet, Jean nous dit dans son premier évangile, dans son évangile, je veux dire, au chapitre premier, il nous dit que la parole est venue chez les siens. Chez les siens. Elle est venue. Est arrivé avec l'incarnation du Fils de Dieu. Donc, la vie a été manifestée, pouvons comprendre comme cela. Mais cela ne suffit pas. Cela ne nous suffirait pas. C'est vrai, mais ça ne nous suffirait pas. Il y a une seconde manière de comprendre ce que dit Jean, et c'est ça qui va surtout nous intéresser. La vie a été manifestée. Les apôtres et les disciples de Jésus ont vu la vie, sont les termes de Jean. Ils ont vu la vie, ils l'ont contemplée, ils l'ont entendu de leurs oreilles, ils l'ont touché de leurs mains, ils en rendent témoignage. Jean en rend témoignage avec ses compagnons, les autres apôtres, ils rendent témoignage. Mais quelle vie? Quelle est cette vie qu'ils ont vue, qu'ils ont contemplée, qu'ils ont touchée? D'abord, faisons une remarque, si vous voulez bien. Une remarque. Là, est utile de toujours se souvenir de la concision du texte et de l'intérêt qu'il y a à bien considérer comment les choses sont libellées. Ce n'est pas que nous restions sur le sens attaché à un sens exclusivement littéral. Attention, le littéralisme, c'est quelquefois un piège aussi. Mais attention, pour comprendre la valeur, le fond d'une déclaration, il faut d'abord la prendre dans le texte littéral. Il faut d'abord la voir littéralement. Il faut comprendre littéralement ce que dit une phrase. Parce que si on n'a pas le sens littéral de la phrase, on part d'un mauvais pied. On part sur une mauvaise base. Donc, nous voyons là, dans la rédaction de Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que. Et nous nous disons, mais voyons, il parle du Seigneur Jésus. Il parle du Seigneur Jésus, puisqu'il dit après, « Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. » La vie était auprès du Père, orne notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il est bien question de Jésus-Christ. Ce qu'il a vu, ce qu'il a touché, ce qu'il a contemplé, c'est la personne de Jésus. Pourquoi il emploie un pronom, ce que? C'est comme si je parlais d'un frère et d'une sœur et qu'au lieu de lui dire, de dire elle ou lui, je disais ce que. On dirait, mais comment il s'exprime? Il voit les gens comme des choses. Alors, donc, il y a quelque chose à comprendre, là. Pourquoi Jean emploie-t-il un pronom neutre? Neutre, ce qui était, ce que nous avons entendu. Eh bien, il désigne Jésus-Christ, en effet. C'est bien Jésus-Christ qu'il désigne. Mais voilà, il sait bien, d'ailleurs, dans d'autres textes, il sait bien, très bien, Jean employé le masculin, non pas le neutre, mais le masculin. Il sait très bien dire celui qui, il sait très bien le dire. Mais là, c'est à dessein qu'il dit ce que, tout en pensant au Seigneur Jésus. Alors, pourquoi cette tournure impersonnelle? C'est parce que Jean veut désigner et montrer dans la personne du Seigneur Jésus la vie éternelle. Alors la vie, c'est ce que. C'est la vie qu'il veut. Jean a cette capacité de voir. Bien d'abord le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Dans son évangile, il montre bien qu'on a pu contempler le Seigneur Jésus. Bien, c'est parfait. Mais dans le Seigneur Jésus, voilà qu'il discerne. Il discerne quelque chose. La vie véritable. La vie dans le Seigneur Jésus. Alors, tout de suite, il va droit à la vie. Au lieu de dire celui qui, il dit ce que nous avons vu. En voyant Jésus, en touchant Jésus, en contemplant Jésus, il a vu ce que. Il a vu quelque chose, une chose étonnante, une chose nouvelle, une chose magnifique, la vie véritable, la vie éternelle. Voilà pourquoi il emploie cela. Cette manière de s'exprimer. Il voit en somme en Jésus la réalité de la vie de Dieu, de la vie éternelle. Il voit la réalité, ce que, tiens, jamais on a vu ça dans un homme, jamais. Il voit la vie de Dieu là, dans cet homme. Alors, nous allons faire une réflexion, un peu de réflexion. Il faut quelquefois réfléchir. Vous savez qu'il est écrit que heureux est l'homme qui réfléchit sur les choses. Eh bien, c'est le moment de réfléchir. Il faut réfléchir. La méditation implique la réflexion. Alors, nous allons réfléchir. La vie véritable. La vie éternelle, j'aime bien l'appeler la vie véritable. C'est la seule, c'est la vie de Dieu. N'est-ce pas? Il n'y en a pas 36. Actuellement, ce que nous vivons là, ce n'est pas ce que les humains vivent sur la terre, ce n'est pas la vie. C'est une vie qui se perd. Alors, ce n'est pas la vie, ça. Ils sont morts. Morts. Vous étiez morts par vos offenses. Et le Seigneur Jésus n'a pas hésité à dire à un disciple qui voulait le suivre et qui lui disait, mais laisse-moi aller enterrer mon père, c'est justement le jour de l'inhumation de mon père, et puis je viendrai après avec toi. Il n'a pas hésité à lui dire, laisse les morts enterrer leurs morts. vous rendez compte, n'est-ce pas ? Laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, la vie véritable, c'est cette vie qui est en Jésus-Christ. Alors, nous nous posons la question, qu'est-ce qu'elle est, cette vie ? J'aurai l'occasion d'étudier avec vous les quatre grandes réalités indéfinissables. Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas ? Quatre réalités, nous les verrons ensemble, quatre réalités qu'on ne peut pas définir, que la science ne peut pas définir. J'ai fait de la science, je sais ce que c'est que la science. Elle ne peut pas définir cela. C'est impossible. Aujourd'hui, autant qu'hier, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. La Bible, elle, sait nous montrer. La Bible est le véritable livre de science, la science de la vie. La véritable biologie, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Alors, la vie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous pouvons dire, avec la Bible, et les savants ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont tous prévenus contre le fait de la création et contre le fait de l'existence de Dieu. Ben, ils ne veulent pas. Ils sont trop fiers, ils sont trop grands, ils sont trop savants. Ce sont les sages et les intelligents. Hein. Bon, alors, nous qui sommes des petits-enfants, qui sommes simples, eh bien, nous disons que la vie, c'est une puissance. Une puissance. Ah. Une puissance immatérielle. Indéfinissable. Indéfinissable. Ne cherchez pas une définition, vous ne la trouvez pas, parce que si on définissait la vie véritable, la vie éternelle, on arriverait à définir Dieu. Enfin, c'est indéfinissable. Et lorsqu'elle se manifeste, la vie, elle ne peut se manifester que par une personne. Alors la première personne, c'est Jésus-Christ qui la manifeste. Elle ne peut se manifester que par une personne. Et alors, ce que Jean veut nous dire, la vie a été manifestée en pensant à Jésus-Christ. Eh bien, il veut nous dire ceci. Si Jésus, étant sur la terre, n'avait pas parlé, s'il n'avait pas agi, avec Jésus a dit « Mon Père agit, moi aussi j'agis », s'il n'avait pas agi, s'il n'avait pas vécu en homme, comme un homme, la vie n'aurait jamais été manifestée. La vie de Dieu, la vie véritable, n'aurait jamais été manifestée. Et alors, le Seigneur nous l'a dit, cela, il nous l'a dit. Seulement, si nous ne méditons pas les paroles du Seigneur, jamais nous ne retrouvons le sel de ces proclamations. Jamais nous ne retrouvons la valeur, la haute valeur spirituelle de toutes ces déclarations. Il nous a dit ceci, le Seigneur. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, dans Jean 14, 10. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Que voulait-il dire ? Eh bien, par œuvre, Jésus a toujours entendu, non seulement les œuvres auxquelles nous pensons tout de suite, c'est-à-dire les miracles, par exemple, les guérisons, les miracles, les signes divers, les paroles du Seigneur, le bien qu'il a fait, oui, ce sont des œuvres, certes. Mais il voulait dire aussi la manière de vivre, mon comportement, ma conduite. Vous m'avez vu vivre, vous avez vu comment je me suis comporté, vous avez vu comment je me suis conduit, vous voyez comment je me conduis. Eh bien, donc, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Autrement dit, le Père qui demeure en moi, vit en moi. Et je vis, moi, la vie du Père. Et c'est cette vie-là que vous voyez. Elle est manifestée par ses œuvres. Dans une autre déclaration, alors que le Seigneur s'exprime en parabole, on lui reproche, on reproche au Seigneur Jésus, comme on reprochait à Jean-Baptiste différentes choses, son, son ascétisme. Alors, au Seigneur Jésus, on lui reproche de manger et de boire avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Alors, il emploie une parabole, les petits-enfants qui s'amusent, qui jouent de la flûte, etc., n'est-ce pas ? Et puis, il conclut de cette manière, « La sagesse a été justifiée par ses œuvres. » la sagesse, la pleine sagesse, c'est, on peut dire, l'équivalent de la vie. Parce que là où est la vie et la sagesse, là où est la sagesse et la vie. Enfin, la sagesse et la vie, ça va ensemble, ça marche ensemble. Ça ne peut pas se disjoindre. Si quelqu'un, si vous me disiez, n'est-ce pas, quelqu'un ici est parfaitement sage, je dirais, ben alors c'est évident que la vie de Dieu est là en lui. N'est-ce pas ? Ça nous incite, ça, n'est-ce pas, à la sagesse. Hein? Bon, alors, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire, la sagesse, eh bien, ça s'est vu, ça se voit, ça se constate par la conduite, par le comportement, par les paroles, par la manière d'être et d'agir, n'est-ce pas ? La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, le Seigneur Jésus lui-même nous disait ainsi, eh bien... Regardez-moi, voyez-moi, regardez-moi vivre, agir, parler, et vous verrez alors la vie de Dieu se manifester, car Satan n'a rien en lui, bien entendu, Satan n'est pas là pour fausser le jeu de la vie véritable, le témoignage de la vie véritable. Donc Jésus a vécu dans notre cadre terrestre. Et il a vécu quoi ? La vie même de Dieu. Et c'est à quoi il nous a destinés. Il a vécu la vie même de Dieu. Il a manifesté la vie véritable. C'est ce que Jean et ses compagnons ont pu voir, ont pu contempler. La vie, donc, ils l'ont vue à l'œuvre, ils l'ont vue dans sa manifestation, en regardant le Seigneur Jésus, en le contemplant, en le touchant même, en le touchant. Ils ont touché celui en qui était la vie de Dieu, la vie éternelle. Alors, je reviens à ma question, qu'est-ce que la vie, puisqu'elle est indéfinissable ? Vous savez, nous avons un homme comme Jean Rostand, qui a écrit pas mal de choses, Jean Rostand, biologiste académicien. Et dans un de ses ouvrages, Jean Rostand s'ingénie à rapporter tout ce que les hommes de science de son époque, qui n'est pas tellement ancienne, tout ce que les hommes de science ont pu imaginer pour tenter de définir la vie, et ils n'y sont jamais arrivés. Et il y en a un qui a dit, un grand savant, qui a dit ceci, notamment, « La vie, c'est tout ce qui s'oppose à la mort. » Merci, monsieur. Merci beaucoup, n'est-ce pas, de cette science. N'est-ce pas, nous nous inclinons devant la haute science. La vie, c'est tout ce qui s'oppose à la mort. On pourrait dire le contraire, la mort, c'est tout ce qui s'oppose à la vie. Ah, bon, avec ça, on est bien renseigné, n'est-ce pas ? Et ces gens-là prétendent être plus savants que la Bible, plus savants que Dieu. Donc, la vie est une puissance immatérielle, immatérielle. J'ai bien, pour ma part, étudié la question aussi sur le plan scientifique, parce que ça m'intéressait, fut un temps, ça m'intéressait beaucoup, et notamment les ouvrages, il a écrit des livres aussi, mais c'est pas à lui que je pense, c'est au professeur Maurice Vernet, qui était un grand médecin, professeur surtout de neurologie et d'anatomie. Et alors, c'était un homme qui avait, lui, le sens de Dieu. Pour lui, l'existence de Dieu. Il ne nous donne pas de leçons d'ordre religieux concernant la foi. Mais lui, n'est-ce pas, il sait qu'il y a un Dieu. Alors, c'est intéressant,
C'est intéressant d'avoir un savant comme lui, n'est-ce pas, qui sait cela. Et qui, dans ses travaux, a par conséquent scruté le corps humain, scruté la physiologie humaine. Et qui vous dit, mais dans l'homme, il y a trois parties qui sont unies, qui sont liées, l'esprit, l'âme et le corps. Il le dit, il l'écrit, l'esprit, l'âme et le corps. Et il dit, l'âme est nécessairement immatérielle. Et alors, il en donne des preuves, et il dit, voyons, qu'est-ce qui règle le fonctionnement d'un corps humain? Nous savons que quand le corps humain se met à se dérégler, hein, eh bien, ça va pas tout seul, n'est-ce pas? Nous gémissons, et puis nous allons voir un médecin qui cherche la cause de ça. Il y a un dérèglement, quelque chose qui ne va pas bien. Mais qu'est-ce qui fait, disait Maurice Vernet, que les processus, parce que le corps humain, n'est-ce pas, c'est un champ très vaste dans lequel se déroulent toutes sortes de processus physico-chimiques. Des processus physico-chimiques. Merveilleux, subtils. C'est merveilleux. Je peux dire que ces savants sont terribles, les savants athées. De ne pas avoir vu, ils ont vraiment les yeux bouchés. Ne pas avoir vu ces choses comme les a vues ce médecin Maurice Vernet. Alors, il y a des processus physico-chimiques d'une grande subtilité, d'une grande finesse. Qu'est-ce qui règle ces... Ça ne peut pas être d'autres processus physico-chimiques qui sont matériels. Les processus physico-chimiques, nous sommes encore là dans le domaine de la matière, n'est-ce pas, de la physiologie. Bon, alors qu'est-ce qui règle ça? Et alors il dit, mais il y a au-dessus un pouvoir régulateur de la vie, qui règle les processus. Et ce pouvoir est nécessairement immatériel. Comment voudriez-vous que quelque chose de matériel puisse diriger une autre chose matérielle? Non, les processus physico-chimiques ont besoin d'être dirigés par une puissance immatérielle. Et cette puissance immatérielle, c'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est cette puissance-là. Le Seigneur nous dit dans la Bible, si Dieu retirait son souffle, et dans l'hébreu c'est roua, s'il retirait son souffle un instant, chez des animaux par exemple, ils rentreraient tous dans la poussière. Parce que cette puissance immatérielle de vie, c'est ça le souffle, qui leur serait enlevé. Et alors, il retomberait en matière minérale. Personnellement, pendant la guerre, j'ai été mobilisé dans un laboratoire de l'armée et j'ai eu à faire des analyses pas très agréables d'entrailles, des entrailles humaines pour rechercher la présence d'un poison. L'arsenic, par exemple, n'est-ce pas? Même dans l'armée, il y avait cela. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Moi, je recevais des grands échantillons, n'est-ce pas, de prélèvements de viscères, humains. Et puis, j'analysais pour rechercher la présence d'un poison, savoir si l'homme qui avait ses viscères avait été empoisonné ou non. Et j'en ai trouvé d'ailleurs, quelquefois, du poison dans les viscères. Qu'est-ce que je commençais par faire? Eh bien, si j'avais un grand paquet de viscères, je commençais par en prendre une partie, et puis à minéraliser. C'est-à-dire que je travaillais sur cet échantillon pour détruire la structure de la vie, de ces tissus humains, la structure de la vie, et puis ramener tout à l'état minéral. Et j'avais après, n'est-ce pas, une matière minérale. Le corps de l'homme vient bien de la poussière de la terre, il vient de la matière minérale. J'avais donc une matière minérale, et dans cette matière minérale, où le poison éventuel n'avait pu que se conserver, alors là, je cherchais la présence d'un toxique, enfin, pour répondre au but qui m'était proposé. Bon, alors donc, la vie, n'est-ce pas, on peut dire qu'elle est une puissance matérielle qui a son siège dans la matière. Mais la matière n'est qu'un siège. Notre corps n'est qu'un siège de la vie qui est immatérielle. Une puissance immatérielle. Et on peut dire que cette puissance immatérielle de la vie est comme la lumière. Elle est invisible. Vous savez que la lumière est invisible. Ça, c'est encore un paradoxe, ça, n'est-ce pas? Quand on passe à la lumière, on se dit, mais c'est précisément la lumière qu'on voit, n'est-ce pas? Eh oui, eh bien, la lumière est invisible, mes amis. La lumière est invisible. Si vous êtes dans une chambre noire, hein, chambre noire, et qu'il y ait une petite ouverture, un petit trou même, n'est-ce pas, par lequel le soleil pénètre, si cette chambre n'est pas remplie de poussière, parce que les poussières vont pouvoir être éclairées, mais supposons qu'elle ne soit pas remplie de poussière, un rayon de soleil traverse, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas, mais vous le verrez si, sur le parcours du rayon, vous mettez quelque chose qui l'intercepte, un écran. Alors, vous allez voir un rond. Ou le dessin de l'ouverture, n'est-ce pas? Vous allez voir la lumière. Vous allez voir, autrement dit, la lumière dans sa manifestation, n'est-ce pas? Dans sa manifestation, mais vous n'allez pas la voir elle-même. La vie, c'est ça. C'est la même chose. La vie a été manifestée, il faut qu'elle soit manifestée dans un réceptacle humain pour être vue. Sans ça, elle est invisible. Si Jésus, je vous dis, était resté, n'est-ce pas, comme une statue, jamais il n'aurait manifesté la vie. Hein? C'est pour ça que nous non plus, il ne faut pas que nous restions comme des statues. Hein? Si nous voulons manifester la vie du Seigneur, c'est pas en tant que statue. Actuellement, par exemple, dans cette salle, il y a des ondes hertziennes différentes longueurs, différentes fréquences, des ondes hertziennes qui se baladent partout. Je sais pas. Eh ben, si on a un petit transistor, là, on l'allume, et puis on entend brang, on entend du bruit, le bruit du monde qui nous parvient, enfin, on entend du bruit ou des paroles. Pourquoi? Parce que ces ondes hertziennes absolument invisibles, et il y en a ici dans cette salle, il y en a. Et elles ne peuvent être manifestées que par un moyen de manifestation, un moyen matériel de manifestation. Enfin, je ne dirai pas plus loin dans ces considérations-là, je pense que vous avez compris, la vie, donc ce qui est appelé le souffle, quand Dieu retire son souffle, tout rentre dans la poussière, il retire la puissance matérielle de la vie, il la retire à lui, il en est la source, et tout rentre dans la poussière. Si Jésus, Fils de l'homme, a manifesté la vie éternelle, la vie de Dieu, dans notre cadre terrestre, s'il a traversé notre existence en vivant la vie de Dieu, eh bien, c'est ainsi qu'il a manifesté la vie éternelle. Et cette manifestation, maintenant, Dieu l'attend de nous. Le Seigneur Jésus n'est plus là physiquement présent. Il est présent en esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Mais il l'attend de son corps. Et son corps, c'est la réunion de tous ceux qui sont ses rachetés, ses disciples, ils l'attendent. Et c'est le corps de Christ qui maintenant doit manifester ce que le corps physique du Seigneur a manifesté en premier. C'est le corps maintenant, le corps qui est l'Église, la véritable Église, le corps de Christ qui doit manifester la vie. Mes amis, vous êtes tenus de manifester la vie. Ce n'est pas du légalisme, ça. Parce que la vie, vous savez, ce n'est pas du légalisme. La vie, c'est l'animation de Dieu. C'est la vie de Dieu. Nous sommes tenus de cela. Alors, tout ça, ça groupe quoi ? La conduite, les paroles. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné, a dit le Seigneur. Ça comprend les paroles. Attention aux paroles. Le livre des Proverbes dit qu'un homme qui parle beaucoup ne manque jamais de péché. Hein? Alors si vous voulez pécher, parlez beaucoup, et puis vous serez sûr d'arriver au résultat. Alors donc, la vie a été manifestée, elle l'est maintenant par le Christ en tant que corps, l'Église, corps de Christ. Et c'est à nous que revient maintenant cette... Alors, voyez, tout de même, n'est-ce pas, que nous sommes loin des conceptions trop fréquentes, des pensées habituelles de beaucoup de chrétiens dans les habitudes qu'ils ont contractées, dans leur église, des habitudes de pensée autant que des habitudes d'action ou de présence. Nous sommes loin de ça, voyez-vous. Je voudrais combien que tous mes frères et mes sœurs soient conscients de cela. Ils ont à manifester la vie de Dieu, comme je vis par le Père, vous aussi. Vous aussi qui m'avez mangé, qui avez mangé ma chair et bu mon sang, vous aussi vous vivrez par moi. Vous vivrez par moi, la vie manifestée. Alors il faut faire attention, nous retombons dans l'ornière de la religion. La religion qui ne signifie rien du tout. Ce n'est pas ça que Dieu attend. Il attend que nous soyons des vivants. Dieu est vivant, nous a-t-il dit tout le temps. Dieu est vivant. Et il faudrait dire, le corps de Christ est vivant, lui aussi. L'homme peut être exposé à des luttes, à des épreuves, à des misères. Mais la puissance de la vie éternelle doit se manifester en lui et par lui dans son comportement. Dans son comportement. Si je vois un frère, une sœur, il ne faut pas que je sois choqué par lui ou par elle. Il ne faut pas que... Si je suis choqué, je ne vais pas la juger ou le juger. Je ne vais pas m'apesantir sur elle. Ça va m'attrister si je vois un frère, une sœur commettre un péché ou tout au moins adopter un comportement incompatible avec un point quelconque de l'Évangile. Je ne vais pas le juger, je ne vais pas la juger, je vais dire Seigneur, Seigneur, ce cher frère ou cette sœur, montre-lui, Seigneur, montre-lui. S'il le faut, si je le peux, je le lui dirai, n'est-ce pas ? Bon, mais vous voyez, je dis cela parce que il ne faut pas que l'un de nous, quel qu'il soit, soit une pierre d'achoppement. Ah, voilà. Soit une pierre d'achoppement pour les autres. Nécessairement, on se voit. On ne peut pas manquer de s'observer. Et tout, nous sommes sensibles à tout. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas... quelquefois fautif, mais nous sommes sensibles quand même à tout. Alors, il faudrait que nous soyons non pas choqués, mais édifiés. Alors, si au contraire, je vois un frère et une sœur qui vivent l'Évangile, alors c'est une joie. C'est une joie. J'ai devant nous, devant moi, la manifestation de la vie de Dieu. Il faut que nous manifestions la vie de Dieu. C'est ça, l'Église, où l'Église n'est rien. Ah, mais égal, moi, qu'on l'appelle l'Assemblée de Pentecôte ou autrement. là où on manifeste la vie véritable, la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit Paul. Là où on manifeste la vie de Dieu, la vie de Christ, alors là, c'est l'Église, c'est le corps de Christ, vraiment. Alors, nous disions que, évidemment, l'homme peut être en butte à des épreuves, à des misères, mais la puissance de la vie éternelle doit se manifester en lui et par lui dans son comportement. Plus la mort de Christ le détache. Paul le dit dans 2 Corinthiens 4, la mort de Christ agit en moi. La mort agit en moi. Plus donc la mort de Christ le détache de son ancienne nature, de sa nature raisonneuse, de sa nature insupportable, de sa nature empreinte de la chute, plus la mort de Christ le détache, c'est comme ça qu'il est esclave de Christ, et qu'il faut qu'il le soit. Plus cela, plus il sera détaché de son ancienne nature et de son ancienne vie, plus la vie de Jésus ressortira en lui et dans son mode d'existence. Il faut que nous soyons, vous voulez que je vous définisse un chrétien? Le chrétien, c'est un être humain, comme les autres, mais un être humain repenti, gracié et devenu porteur de croix. C'est un porteur de croix. Un porteur de croix, il porte sa croix. Si vous voulez me suivre, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Voilà ce que le Seigneur nous demande. L'idée est celle-ci, que la mort du crucifié nous retienne véritablement dans la mort à nous-mêmes. Que la mort du crucifié nous retienne dans la mort à nous-mêmes, pour que notre vie ne soit plus notre vie passée, notre vie propre, mais celle du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, Christ doit être notre exemple, notre modèle. Jean nous dit qu'il a manifesté la vie. Chose extraordinaire. Et maintenant que Christ est monté, est assis à la droite de Dieu, maintenant sur la terre, son Église, qui est son corps? Et vous savez que dans 1 Corinthiens 12:12, l'Église est appelée du nom de Christ. 1 Corinthiens 12:12. Lisez bien ce verset et vous verrez que l'Église, il s'agit de l'Église, elle est appelée Christ. Ainsi en est-il de Christ, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une manière, des visions, des révélations magnifiques. Christ doit être notre exemple, notre modèle. Marcher à son exemple, c'est, comme il l'a fait lui-même, manifester la vie éternelle, la vie nouvelle, la vie de résurrection. Et alors, terminons sur cette pensée, si vraiment il en est ainsi. Et si nous manifestons la vie nouvelle, la vie de Dieu, la vie de résurrection, eh bien, quel témoignage n'en résultera-t-il pas? Quel témoignage? Un témoignage extraordinaire. Alors après, nous n'aurons plus besoin de dire « comme c'est dur d'attirer les âmes ». Bien sûr, vous aurez des âmes... des gens qui vont toujours vous envoyer promener, contester, etc. Mais, si nous vivons la vie vraiment devant eux, l'Évangile, si nous sommes à l'exemple du Maître, et si vraiment la vie de Jésus coule en nous, la vie nouvelle, ces gens-là seront gênés. Et l'apôtre Paul le dit, mais nous renverserons des forteresses. Les forteresses, nous les renverserons, pas par des raisonnements, pas par une multitude de versets que nous citerons, par la vie que nous vivrons à leurs yeux. Eux aussi verront, eux aussi toucheront, eux aussi contempleront, s'ils nous contemplent. C'est pas nous qu'ils contempleront, c'est Christ en nous. Ils verront cela, Et ils seront obligés, Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Et ils seront obligés, en voyant les œuvres, les bonnes œuvres, en voyant la manière de vivre, ces gens-là seront obligés de rendre grâce à Dieu. Moi, je me rappelle un homme qui était irréductible comme tout, et puis qui avait assez longtemps considéré, parce qu'attention, les gens du monde vous observent, hein, ils vous regardent de tous les côtés, pour épier, justement, tout ce qui est en échec à la vie nouvelle. Et je me rappelle cet homme qui avait donc regardé comme ça, et qui avait toujours, n'avait que plaisanterie et que contestation à la bouche, c'était un beau parleur. Et puis, un jour, il était là, penseur, pensif, et une larme dans l'œil. Et il disait, j'ai constaté quelque chose que je ne connaissais pas, que personne ne connaît. Je ne sais pas comment on l'appelle, comment il faut l'appeler, mais j'ai constaté quelque chose qui est merveilleux, absolument merveilleux. Alors, je lui ai dit, mais n'est-ce pas la vie du Seigneur Jésus qu'à travers ses disciples, vous avez vu? Ah, il me dit, c'est certainement ça. Ça ne peut pas être autre chose que ça, n'est-ce pas? Et voilà comment cet homme, la forteresse de cet homme a été détruite, abolie, et comment cet homme est devenu un adorateur du Dieu vivant. Chers amis, le témoignage est là. La vie a été manifestée. Amen. Continuons dans la prière, s'il vous plaît.